Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et pour débattre et commenter l'actualité avec Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve tous les mercredis matins sur Sud Radio dans la matinale pour l'édito politique. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour. Et Jacques Bonjour. Miard, maire LR de Maison Lafitte. Toujours LR, Jacques Miard?
Il n'y a pas de problème, je n'ai pas pour habitude d'être une girouette, moi.
Moi, bon, on va peut-être en dire un petit mot quand même de tout cela. Passe sanitaire, est-ce qu'on va finir par y arriver? Vous avez vu que le conseil scientifique s'est prononcé en faveur d'un passe sanitaire temporaire, donc on va voir ce que ça va donner. Évidemment, aujourd'hui, Napoléon, tout le monde parle de Napoléon. Comment Emmanuel Macron va commémorer sans célébrer? Et oui, c'est compliqué, hein, 200 ans après, c'est voilà. Et puis, faut-il légaliser le cannabis pour reprendre le contrôle aux dealers? On en a un petit peu parlé hier, mais le sujet aujourd'hui fait débat. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jérôme, c'est un coup de cœur?
Oui, c'est un coup de cœur mmh. pour... l'industrie française, notre ouais. diplomatie à travers la vente des 30 rafales de la société Dassault à l'Égypte. C'est une très belle réussite industrielle. C'est au-delà des emplois, je crois que c'est environ 7 ou 8 000 emplois sur 3 ans que garantit ce contrat. C'est un peu le fer de lance de notre diplomatie stratégique avec les alliés. C'est important pour la France de pouvoir proposer ce type d'armement à des pays alliés. On le voit avec la Grèce notamment, où ça nous permet d'occuper une position stratégique importante. On a tendance parfois un peu à se plaindre et à se dire que les produits qu'on fabrique ne fonctionnent pas toujours. Là, je crois que Dassault fait la démonstration avec sa résilience. Ça fait plus de 20 ans que cet avion d'armes est sorti, que la société avait raison, que l'État français d'ailleurs a eu raison de soutenir ce programme. Et je m'en réjouis. Voilà, c'est important d'éclairer, de faire un petit cocorico, surtout en cette journée du bicentenaire de Napoléon.
C'est vendu à l'Égypte. On espère que l'Égypte restera notre allié. C'est aussi la question qu'on peut se poser.
Mais justement, de fournir des matériels et des avions d'armes, c'est aussi une façon d'assurer un dialogue permanent avec ces pays. Pas. Ça ne garantit pas le fait que ça restera nos alliés, mais c'est un dialogue avec eux important, industriel et militaire.
Oui, on a vendu des armes à l'Arabie Saoudite aussi, qui s'en sert pour aller au Yémen tuer des gens.
Mais une arme, par nature, elle est faite pour essayer d'éviter un conflit, mais lorsqu'il y a un conflit, une guerre, ça tue des gens. C'est une guerre sans tuer des gens, ça n'existe pas.
Jean-Luc, vous vouliez réagir?
Juste pour rappeler qu'on avait vendu à la Libye et à M. Kadhafi, à l'époque des Mirages, un certain nombre de Mirages.
On a vu
la fin. La fin n'a pas été très brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Après ça, en ce qui concerne les emplois, je suis d'accord qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui est tout à fait valorisant pour la France. En ce qui concerne la diplomatie mondiale, je suis plus dubitatif.
Oui, mais Jean-Luc, il faut quand même bien reconnaître que la société Dassault est une société d'avant-garde, qu'elle nous est enviée, que les Allemands, aujourd'hui, ont des prétentions pour obtenir les brevets de M. Dassault, alors que c'est inadmissible, que les Américains cherchent des noises à Dassault à travers un certain nombre d'enquêtes plus ou moins tordues. Et donc, effectivement, Dassault, il faut que ça reste une société française et que pour être une société indépendante qui puisse continuer ses recherches et continuer ses développements d'appareils, il faut qu'elle exporte. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, le Proche et le Moyen-Orient, c'est compliqué, je le sais. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, l'Égypte est sans doute l'un des pays les plus « stables », entre guillemets. Le gros problème en Égypte, c'est la croissance démographique. Et donc ça, s'ils n'arrivent pas à maîtriser leur croissance démographique, il va y avoir un appauvrissement du pays avec toutes les voies et toutes les, je dirais, les impondérables liées à la pauvreté.
Bon, on passe au coup de gueule de Jean-Luc.
Oui, c'était un peu toujours le même. C'est pas toujours le même, mais... on en discute beaucoup sur Sud Radio et pas que là. sur la vaccination. Il est grand temps de comprendre quelque chose sur la vaccination. En France, il y a des gens qui veulent bien se faire vacciner, d'autres non. Eh bien, qu'on laisse tous ceux qui veulent se faire vacciner aller se faire vacciner, quoi, clairement. C'est plus la bousculade dans les centres de vaccination, tout le monde le sait. Bon, voilà, ouvrons-le totalement, parce que pour l'instant, plus je lis les dates successives, alors ceux qui ont entre 18 et 50 ans, mais qui sont en cas de comorbidité, alors ils peuvent, mais on ne sait pas trop. Et après, les enseignants, on ne sait pas trop non plus, voilà. Facilitons l'espace pour ceux qui veulent aller se faire vacciner. Et comme ça, globalement, au moins, on ne perdra pas de doses. Parce que le nombre de cas, et je félicite d'ailleurs dans ce cadre-là, quelques mairies, même pas mal de mairies, qui ont ouvert leur centre et qui disent maintenant, hein, c'est ouvert, vous vous inscrivez, et puis il y a de la dose, vous êtes vacciné. Voilà. Allons-y, quoi. Cessons ce petit jeu stupide qui ne permet à personne de comprendre quoi que ce soit sur les dates de vaccination.
Oui, puis il y a une forme d'injustice aussi, c'est-à-dire que certains centres acceptent de vacciner tout le monde et d'autres refusent. Donc il n'y a pas une égalité de tous les Français face à cette vaccination. Selon que vous êtes dans un centre ou dans un autre, on acceptera de vous vacciner sans problème et dans un autre, on vous renverra chez vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense qu'effectivement, il est important que tous les Français qui aient envie de se faire vacciner puissent se faire vacciner et ce le plus vite possible. La difficulté, c'est il n'y a pas assez de doses.
Il n'y a pas aujourd'hui.
Si, il reste de l'AstraZeneca.
Il reste
de l'AstraZeneca qui est disponible, mais qui ne couvrirait pas les besoins des Français. Mais de toute façon, le but ultime, c'est qu'effectivement, 100% des Français qui souhaitent se faire vacciner puissent être vaccinés. Et on a pris un grand retard. On voit bien qu'aujourd'hui, on vaccine à peine 500 000 personnes par jour quand l'Allemagne fait le double. Donc, il y a une vraie difficulté dans l'accès aux vaccins aujourd'hui.
Alexis, vous en pensez quoi, vous, de cette vaccination ouverte à tous ?
Bah oui, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui attendent, qui souhaitent se faire vacciner. Faisons-le. Dans les règles de sécurité, bien entendu. Je crois qu'il y a des doutes encore pour les plus jeunes sur l'AstraZeneca, etc. Ouais. Donc, bien sûr,
Johnson aussi.
Mais bon, là où il n'y a pas de doute, bon, allons-y pour ceux qui le souhaitent. Après, la question que ça pose, c'est bien sûr la précipitation, à le dire, la course contre la montre, contre les variants, etc. En disant, il faut absolument vacciner le plus vite possible, même si, voilà, on ne sait pas encore combien de rappels, combien de vaccins sur les années qui viennent. On apprend que Pfizer va empocher 26 milliards grâce à ce vaccin, pas 15 milliards, 26 milliards.
Bah oui,
et Pfizer, c'est encore plus beau que ça. Non seulement on fait de la potion, du vaccin, mais en plus, va nous sortir une petite pilule de traitement précoce, mais dans un an. Hein, le temps d'empocher les 26 milliards,
mais
vous
c'est leur boulot de faire des médicaments, vous êtes marrant. Vous...
Mais oui, mais c'est leur boulot, mais je trouve ça bien, c'est formidable.
Mais ils sont quoi ? C'est une industrie pharmaceutique.
C'était le boulot au niveau du Parlement européen, que les parlementaires puissent contrôler la façon dont on était acquis. Et ces contrats restent d'une opacité absolue, et qu'au regard de l'enjeu de la pandémie, de l'insécurité sanitaire et des problèmes globaux que ça fait pour notre société, je reste convaincu que nous devrions savoir comment ces contrats sont négociés, est-ce que les profits sont indécents ou non, est-ce qu'ils sont normaux. Ça reste opaque, et je suis surpris que ça ne crée pas plus de remous. Alors, on ne sait pas comment ça va augmenter le prix de son vaccin l'an prochain.
Non, mais c'est-à-dire, on nage dans un truc quand même où on est en train de donner des milliards à l'industrie pharmaceutique, alors même que les recherches ont été financées. Quand vous achetez une voiture, vous donnez des milliards à Renault, Peugeot, Citroën. Pourquoi ça n'a rien à voir?
Non,
une voiture, vous choisissez de l'acheter, vous choisissez le modèle. Et puis,
vous choisissez de vous faire vacciner ou pas. Moi, j'ai plein d'auditeurs qui me disent je ne me fais pas vacciner.
Non, mais c'est pas une question de choisir. C'est qu'aujourd'hui, on a besoin de développer des vaccins et ils ont été acquis par nos impôts, donc c'est pas du tout la même chose qu'une voiture. Voilà. Une voiture, c'est vous qui allez l'acheter. Voilà. Là, ce sont nos impôts et c'est une commission de façon totalement opaque qui a décidé de faire cette acquisition. Oui. On ne connaît pas encore une fois qui a négocié ni quelles sont les conditions économiques dans lesquelles ça a été négocié. C'est totalement anormal.
Jérôme, tu as certainement raison. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des investissements qui ont été faits à la fois par les capitaux publics et les capitaux privés. Donc, il n'est pas immoral que ces sociétés retrouvent. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir des licences et de négocier ces licences pour obtenir les vaccins en question. Alors, sur le retard à l'allumage, il a été total. Mais il y a pire que ça. J'ai entendu l'autre jour l'actuel secrétaire d'État aux affaires européennes avouait qu'il n'avait jamais eu accès et qu'il n'avait pas contrôlé les contrats et qu'il ne les connaissait
Bien
pas.
Sûr.
Lorsqu'on donne un mandat à un mandataire, il faut que le mandant contrôle. Et c'est là où il y a un scandale prodigieux oui. sur la non, naïveté ça... française à l'égard de l'Union européenne.
Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous débattons aujourd'hui avec Jérôme Ripoul. Pardon, Jérôme Ripoul. Ah là, c'est avec les Alexis que je me trompe d'habitude. Là, c'est Jérôme Rivière, député européen du RN, Rassemblement National. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, tous les mercredis matins dans la matinale de Sud Radio. Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. On continue notre tour de table, donc après Jean-Luc, Alexis, ça va nous amener peut-être sur une petite discussion, c'est un coup de gueule ?
Oh bah, un coup de gueule, un commentaire, ouais. parce qu'on en parle depuis trois jours maintenant, dimanche, hein, Jean Castex qui annonce comme ça unilatéralement que la liste de La République En Marche désiste au profit de la liste du président sortant Renaud Muselier, LR, et là, psychodrame comme la droite s'est ancrée, on se rappelle de la Coco, la commission présidée par la Coco par Jean-François Copé, et on se dit « Oh non, ils ne vont pas nous inventer un nouveau truc », et la droite qui se déchire encore, faut-il ou non faire alliance avec La République En Marche pour sauver la région ? Moi, ce qui m'étonne, c'est que Renaud Muselier, qui dit « Je suis un homme libre, je n'ai pas attendu ni Jean Castex, qui est un ami, ni le président, ni mon parti, pour choisir ça pour mes administrés, pour ce que j'ai fait pour la région », n'ait pas réfléchi au message qui a été envoyé. Parce que La République En Marche, ce n'est pas un parti qui pense élection intermédiaire, élection régionale. Ça ne sert qu'à une chose, soutenir la candidature d'Emmanuel Macron, c'était le cas en 2017. Aujourd'hui, le parti LAREM est un repoussoir à électeurs, donc je vois même pas comment ça pourrait apporter des voix. Mais par contre, au national, c'est 2022, faire une nouvelle majorité présidentielle, aller récupérer justement des nouvelles recrues comme, là c'est le cas de Monsieur Falco, c'est le cas de Monsieur Estrosi Anis, hein, qui eux sont ouvertement pro-Macron depuis des mois et qui ont œuvré d'ailleurs à ce rapprochement. Mais comment on peut penser que c'est un calcul qui va être gagnant-gagnant. Non, je crois que c'est un cadeau qui est fait à Thierry Mariani, au Rassemblement National, qui était déjà très bien placé dans les sondages. Et les électeurs, surtout, c'est un mépris des électeurs et des militants des Républicains qui en ont ras-le-bol, je crois, de voir leur parti tiraillé entre un centrisme mou, anciennement jupéiste, qui se sont tous retrouvés chez En Marche dès qu'il a fallu trouver des postes, et puis des Chiraciens qui ne savent plus où ils habitent, avec cette fameuse, ce front républicain qui est complètement anachronique, puisqu'on voit bien qu'il y a une tentation. Éric Mariani a été le premier à faire le pas de DLR au Rassemblement National.
J'étais là un peu avant lui.
Vous étiez là avant lui, mais je pense que vous êtes précurseur. Il y en a beaucoup qui vont suivre dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, à mon avis. Après les régionales, ça devrait bien rejouer. Et chez LR, tout le monde en est conscient. Tout le monde en est conscient, sauf visiblement Jacob, les uns et les autres. Donc on a l'impression qu'il y a vraiment une politique hors sol, hein, faite par les élus, les politiques, et puis ceux qui vont encore voter. Hein. Il y a des citoyens qui utilisent leur droit de vote encore et qui se disent « Mais je vais arrêter d'utiliser. » Pour ça, c'est un spectacle lamentable.
Ouais. Jacques Miard, c'est votre famille
oui,
politique.
Alors, moi, je vais quand même réagir. Je vais vous dire une chose. Il y a eu absolument une faute politique de la part de Muselier qui n'a pas encore compris que s'atteler avec les LRM, c'est s'atteler à un corbillard. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Parce qu'aujourd'hui, je suis intimement convaincu que ce n'est absolument pas une force gagnante. Et moi, je suis de ceux qui pensent même que s'il y a un seul candidat LR, et je pense qu'il y en aura un aux prochaines élections présidentielles, M. Macron ne sera pas au deuxième tour. J'en suis convaincu. Et contrairement à ce que pensent un certain nombre de salonnards qui jouent, parce que c'est la volonté aussi du gouvernement, de la jouer en disant il faut recommencer, je dirais, Le Pen-Macron en 2022. Ben ça, c'est pas gagné d'avance.
Ce sera qui votre candidat ?
Bien sûr. Pardon, à une condition, bien sûr, que les LR aient un seul candidat, parce que ça, c'est quelque chose de jouable.
C'est quand même le problème.
Mais attendez, parce que, vous savez, il ne faut pas... Ne faites jamais une analyse politique à encore un an des présidentielles et avec les obstacles qui doivent être franchis d'ici là, parce que ça peut se retourner contre les uns comme contre les autres. Maintenant, en PACA, il est évident que Muselier a fait une faute, et que le résultat va être extrêmement incertain. Mais ce qui est certain, c'est que c'est aussi une gifle pour le Premier ministre, parce qu'il pensait faire une prise d'otage, c'est raté. Deuxièmement, qu'est-ce que représentent les gens qui rallient Macron aujourd'hui en termes électoraux ? Rien. Que ce soit le maire, que ce soit Darmanin, ils n'ont plus de base électorale. Ils étaient des prises d'otages, comme Kouchner a été une prise d'otage.
Non, une prise de guerre, une prise de guerre, plus qu'une prise d'otage.
Ils sont en otage aussi. Oui. Ils sont en otage aussi, parce que ce n'est pas ça qui va les sauver. Donc, le problème, il est là. Donc, on est dans une situation qui va être extrêmement fluctuante et rien n'est calé. Donc, ce n'est pas la peine de sauter aux conclusions parce que personne ne les connaît.
Oui, mais c'est pas très glorieux quand même ce qui s'est passé.
Ah ben non, ça, je vous l'accorde.
C'est quand même pour personne. Hein, je pense qu'il y laissera des plumes, Muselier.
Ah ben ça, c'est évident.
Oui.
C'est
évident. Jean-Luc Benamias.
Je même pas, parce que c'est enfin politique. Et là, il s'est pris les pieds dans le tapis comme jamais.
Oui, parce que c'était oui, non, je fusionne, et puis après c'est non, on ne m'a pas compris. Enfin,
vous savez, je vais vous dire une chose.
C'est assez incompréhensible.
Je connais bien Jérôme. Ouais. Jérôme a pris une option qui n'est pas la mienne. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il faut rester en cohérence de ligne politique. Et les camarades du PC, hein, Jean-Luc, pourraient nous le dire. C'est un problème de cohérence. Donc, il faut rester cohérent. Mais non, mais Jean-Luc fait appel à l'homme de gauche. Voilà.
Merci, t'as raison, c'est Jean. Bon, allez, ça va, tout roule. Ouais.
Et Jean-Luc, alors, vous en pensez quoi, vieux routier de la politique aussi ?
La décomposition du paysage politique français n'est pas terminée. Voilà. Je parle de l'ensemble du paysage politique français. Je défie quiconque de comprendre quoi que ce soit à ce qui va se passer au niveau des élections régionales et départementales, peut-être en dehors des Hauts-de-France, où il y a eu une certaine unité de l'ensemble des formations qui se sont mises d'accord, le reste du paysage politique départemental et régional est devenu totalement incompréhensible. On n'a pas encore atteint le fond de la piscine, bientôt on va l'atteindre. Et les formations politiques aujourd'hui, quelles qu'elles soient, ne pèsent plus grand-chose en termes de milliers d'adhérents, de dizaines de milliers d'adhérents.
Ah voilà, mais c'est même pas ça.
Je finis, Jacques. Et donc, ce que j'en pense, c'est que, notamment en PACA, Renaud Muselier, là, a fait le pour et son contraire, ce qui rend encore la chose la plus incompréhensible possible. Chacun sait bien que, de toute façon, au niveau de la droite de Provence à la Côte d'Azur, entre Renaud Muselier et M. Éric Ciotti, il n'y a plus aucun accord possible.
Je partage nombre convictions avec Jacques et une analyse, c'est qu'il est bien tôt pour savoir ce qui se passera en 2022.
Certes.
Mais ce qui m'a marqué, moi, dans cette affaire, c'est notamment les derniers événements, hier soir, les communiqués auxquels on ne comprenait rien de Renaud Muselier. C'est le rapport qu'a LR, qu'entretient ce parti, spécifiquement avec la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y a la vérité, c'est quand même la réalité profonde qui est devant nos yeux. Il y a une alliance, puisque sur une liste, vous allez retrouver des gens de LR, des gens de LREM. Les électeurs, quels qu'ils soient, sont capables de voir les choses. Vous allez voir des noms qui sont des gens qui appartiennent à LREM, d'autres qui appartiennent à LR, qui seront sur les mêmes listes. Affirmer devant des caméras, devant les Français, il n'y a pas d'alliance, c'est institutionnaliser le mensonge. Et quand les politiques institutionnalisent le mensonge, il n'y a plus de repères, et ça crée d'abord un immense dégoût. Et ça participe de cette abstention qui se généralise, et c'est très mauvais. Et derrière, il n'y a plus de respect pour l'homme politique une fois qu'il est élu, parce que vous ne croyez plus en sa parole. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais quitté à l'époque l'UMP, c'est qu'on affirmait des tas de choses en campagne électorale, et qu'une fois au gouvernement, puisque j'étais fait participer de la majorité de 2002 à 2007, nous n'appliquions pas le programme pour lequel nous avons été élus. Et c'est ce rapport à la vérité qui aujourd'hui pose un problème en politique et qui participe de ce délitement de la France. Et hier, c'en était un symbole ultime, la façon dont Jacob et Muselier ont traité cet échec absolu et dramatique.
Enfin, le rapport à la vérité, Marine Le Pen n'est pas la dernière non plus pour aussi sortir quelques fake news de temps en temps.
Il y a quand même
en politique, c'est très bien partagé.
Je fais une différence entre ce qu'ont été, je dirais, les bévues et les fautes de Muselier qui s'est pris les pieds dans le tapis et qui semble continuer à le faire, et celle de Jacob qui a toujours dit qu'il n'est pas question de s'allier. Et donc, le parti a réaffirmé la ligne pour tout le monde. Je rappelle que Pécresse en Ile-de-France, pas d'alliance avec LRM. Laurent Wauquiez, pas d'alliance. Xavier Bertrand, pas d'alliance. Alors, bien sûr, il y a PACA, Mais je dirais qu'il y a trois grandes régions, et non des moindres, qui maintiennent la ligne, pas d'alliance avec les macronistes, tout simplement parce que je crois qu'ils sont, ils sont déjà les deux pieds dans les poubelles de l'histoire.
Mmh. Oui. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Ce sera votre coup de gueule, cher Jacques Myard, et ça nous entraînera sur le débat. Mais dans un petit instant, on marque une petite pause de pub.
Oui,
restez
avec
nous. Et oui, restez avec nous.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, le coup de gueule de Jacques Myard. Jacques Myard, c'est à vous.
Bah, il est très simple, mon coup de gueule. C'est ce qui s'est passé à Stalingrad avec les tirs de mortier de la part de résidents pour chasser les trafiquants. Mais je vais vous dire, ce qui me met en colère véritablement, c'est que cette affaire-là, ça fait des années que je la vois venir. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, lorsque la sécurité a horreur du vide, comme la politique, donc elle est remplacée immédiatement, si ce n'est pas l'État qui maintient l'ordre et, je dirais, sanctionne lourdement, eh bien, il ne faut pas s'étonner ensuite que ce soit le peuple lui-même qui dit « je palie les manques de l'État, le laxisme de l'État ». Et c'est ça qui me met en colère, c'est que ça devait venir et c'est venu. Et quand on sait tout ce qui s'est passé dans les banlieues, où on a entendu des cris « tuez-les tous »,« flics racistes »,« colonialistes », etc., eh bien, on savait que ça venait, on a des... Et là, les salons parisiens, c'est véritablement le silence, c'est le cynisme le plus total. Donc, ce qui s'est passé, pour moi, ce n'est pas la divine surprise, c'est malheureusement le fait que le peuple en a marre et qu'il va se défendre, et ça risque de dégénérer.
Alors, je veux vous dire, moi, ce qui m'a mise très en colère sur cette affaire, c'est ce qui s'est passé hier soir.
Hier soir,
une importante opération de police a été organisée, place Stalingrad. C'est-à-dire que ça fait des mois, voire des années, que les habitants de Stalingrad dénoncent cette situation. Ouais. Il ne se passe rien jusqu'à ce tir de mortier, et d'un seul coup, comme par hasard, on envoie les policiers. Alors, la commissaire du 19e dit l'opération était prévue depuis bien plus longtemps, etc. Mais par hasard.
C'est du foutage de gueule. Je suis passé dans le quartier, j'avais des rendez-vous entre Jaurès et Stalingrad. Vous avez des quarts de CRS, de gendarmes qui sont là. Regardez si les gens ont le masque. Et 50 mètres plus loin, vous les voyez, les points de deal. Ils sont à ciel ouvert. Sur des bancs, et tout le monde le sait. Et dans le quartier, les gens n'en peuvent plus, ça je comprends bien, les riverains, ça fait des années que ça commence à être un problème. La colline du crack, elle est répertoriée, connue, mais c'est comme le reste de Paris, c'est-à-dire que, allez, c'est très bien, c'est circonscrit sur un territoire, on sait où c'est, donc on va laisser là chez les pauvres, en gros, et puis comme ça, on les regarde et on voit où ça va. Mais quand on entend Darmanin derrière dire qu'il s'attaque au point de deal, c'est une vaste blague. Là, les points de deal, ils sont connus de tous. Ils se cachent même pas. Et les flics sont à côté. Donc, c'est quoi le but, en fait, de cette politique ? Laisser pourrir ? Faire que les gens en arrivent à bout et tirent à coups de mortier sur les dealers parce qu'ils n'en peuvent plus ? Ou c'est les aider dans leur quotidien ?
On a rappelé ces phrases hier de Gérald Darmanin. Hein. La peur va changer de camp. Ouais, les dealers vont avoir peur. Pour l'instant, ils n'ont pas très peur.
Mais c'est de la politique d'Emmanuel Macron, Darmanin. C'est de la communication. Ils sont persuadés qu'avec des mots, ils vont convaincre les Français. La réalité, c'est que les policiers, si on leur disait d'aller demain matin s'attaquer à ces points de deal, ils savent exactement où ils sont et ils peuvent le faire. Mais le mauvais génie de ce gouvernement, c'est quand même Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, parce que derrière les policiers, il faut aussi se mettre à leur place. Ils arrêtent le dealer, le lendemain matin, le mec, il est relâché et il revient faire son deal. Et il regarde le policier en disant « tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, je serai encore là ». C'est un problème énorme avec la justice en France. Et on a un garde des Sceaux aujourd'hui qui est qui se préoccupe plus des gens qui sont en prison, qui se préoccupent plus du sort des délinquants que du sort des victimes et qui n'a absolument pas en tête le rétablissement de l'ordre public en France. Donc cette chaîne de sécurité, elle est brisée. Et même si Darmanin avait l'intention de faire quelque chose, ça ne serait pas possible. Et ça, c'est Emmanuel Macron avec son en même temps. Il fait un peu de com' policière d'un côté et derrière, il envoie des signaux en disant « Regardez, je suis très très gentil, j'envoie personne en prison ». Et c'est pour ça qu'on a un délinquement en France et ça amène à la tribune des généraux qui disent à un moment « Mais attendez, on n'en peut plus, regardez, tout s'effondre. »
Emmanuel Macron, il n'est pas seul responsable. Ça fait des années que ça dure.
Emmanuel Macron, c'est lui qui donne les instructions. Oui. Il est président de la République.
Ça fait des années que ça dure.
À ce stade, il faut se souvenir, 2017, il y a 200 000 coups et blessures. 2019, 260 000, plus 30%. plus 30%. C'est considérable. Allez, ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron.
Jean, alors, juste cette, la fin du papier du Parisien est formidable sur cette intervention de la patrouille et les déclarations de la commissaire du 19e. Alors, donc, on dit plusieurs patrouilles mobiles restent sur place et une statique avenue de Flandre afin d'éviter que les tirs de mortier ne se reproduisent.
C'est-à-dire que.
Le problème, c'est pas le deal, c'est les tirs de mortier des habitants qui se défendent. Donc, c'est, et les mortiers, je vous rappelle, à l'automne dernier, devaient être interdits. Après les déclarations de Gérald Darmanin. Allez, Jean-Luc oui, Benhamias.
Je reviens sur Stalingrad. J'ai vécu longtemps à Paris avant de vivre depuis 20 ans à Marseille. Et le local des Verts, quand j'étais responsable des Verts, était juste à côté. Ça fait 30 ans que ce lieu de deal, de violence, d'agression aussi, vous l'avez vu, il y a quelques mois, quelques années, un certain nombre de femmes étaient agressées régulièrement sur... Exactement au même endroit. C'est un lieu sur lequel les associations d'aide sanitaire par rapport à tous ceux qui sont malades, car il s'agit bien très souvent de malades, disent « arrêtez là, il faut faire quelque chose qui s'apparente à des soins ». Rien ne se passe. Ces lieux de deal, de violence, d'agression sexuelle et autres continuent jour après jour. C'est impossible là-bas de vivre normalement, de sortir avec ses enfants normalement, de sortir quand on est une femme somme, de sortir normalement. Voilà. Et cette situation perdure. Moi, je crois, et ça rejoindra le débat qu'on aura tout à l'heure, peut-être si on a le temps, sur la légalisation du cannabis.
Allons-y.
Toutes les politiques de criminologie qui ont voulu faire de la prohibition dans tous les pays du monde n'ont jamais réussi.
Jean-Luc, là tu exagères. Non. Parce qu'en réalité... Non. La loi n'est pas appliquée.
Mais et parce qu'on n'arrive pas
Elle
à l'appliquer.
Elle n'est pas appliquée parce que effectivement, il y a une espèce de victimisation, etc.
Non.
Je vais te dire. Quand on me dit qu'il faut lutter contre les grands trafiquants, d'accord. Mais s'il n'y avait pas des consommateurs, il n'y aurait pas de grands trafiquants.
Il y a des consommateurs, Jacques.
Oui. Alors les consommateurs, le problème, il y a un moment, et ça, je vais te le reprocher, pas à toi, mais à ta famille politique. C'est que fumer un joint, c'était tout à fait normal, c'était pas délictueux, etc. Or, comme tu le sais, dans le cannabis aujourd'hui, c'est devenu une drogue extrêmement dure avec fondamentalement ce qu'il y a maintenant dedans. Ce n'est plus à 0,5, mais c'est monté à 35
de THC.
Et il faut sévir. Je suis désolé, il faut une sanction. Et quand on dit qu'il faut dépénaliser, qu'il faut libéraliser, va voir ce qui s'est passé dans un certain nombre d'États américains où ils l'ont fait. C'est une catastrophe. Il faut arrêter de se jouer.
C'est pour ça que le Sénat et que l'ensemble des parlements américains ont voté pour la légalisation.
Non. Premièrement, ce n'est pas l'ensemble des...
Mais si.
Mais non, c'est État par État.
Mais pas du tout. C'est passé à l'Assemblée et au Sénat, Jacques.
Non, mais écoute-moi bien. Ce qui s'est passé dans certaines villes américaines où il y a eu une libéralisation, demande à Bauer, etc., à tous les criminologues, c'est une catastrophe.
On va pas se mettre. Juste un mot sur Anne Souris, qui est une des adjointes à la santé à la ville de Paris, qui dit : je dénonce avec vigueur les tirs de mortier à Stalingrad.
Bien évidemment.
Donc c'est les tirs de mortier qu'on dénonce à Stalingrad.
C'est incroyable.
Je voulais revenir sur la légalisation, parce que c'est un débat important avec beaucoup de fausses idées. Aux États-Unis, c'est effectivement, comme le dit Jacques Myard, un échec. C'est un échec d'une part parce que ces drogues dites douces entraînent, et ça ce sont des chiffres statistiques, il y a un très bon papier du JDD du 25 avril dernier qui le montre, entraînent de consommation de drogues beaucoup plus dures, que derrière ça n'a en rien réduit les filières du marché noir, c'est-à-dire que le marché noir, les trafiquants continuent de s'enrichir, mais surtout ça a rajeuni le profil du consommateur et vous avez de plus en plus de mineurs aux États-Unis qui consomment, au point que des États comme l'Oregon, qui a été précurseur en la matière, ce sont les autorités de santé qui s'inquiètent de cette régularisation. Donc c'est la plus mauvaise idée qu'on puisse avoir. Ça n'a rien à voir avec la comparaison avec la prohibition de l'alcool. L'alcool n'entraîne pas d'autres drogues beaucoup plus dures et ça n'a pas laissé les trafics.
Ça entraîne l'alcoolisme.
L'alcoolisme, les autres drogues entraînent des drogues encore plus dures et avec un immense rajeunissement. En matière de santé publique, c'est un échec absolu.
Bah, si je peux ajouter une chose, c'est pas en s'attaquant au point de deal qu'on s'attaque au problème de la drogue, c'est en s'attaquant aux mafias. Et on voit bien que c'est la casse qui manque. Alors il y a eu un coup de filet hein, d'Europol avec les messageries cryptées, un crochat, etc. Et les drogues, elles arrivent à un moment sur le territoire, via les ports notamment. Et c'était le port de Rotterdam qui avait été ciblé. On y a découvert une chambre de torture où les mafieux allaient torturer ceux qui voulaient pas bosser pour eux. On y a découvert des tonnes de marchandises, des millions d'euros. Et là, bizarrement, on s'y attaque pas beaucoup. Finalement au point d'entrée. Alors qu'on sait très bien, ça rentre pas.
Oui, parce que disait Christine Bouillot hier, elle disait venez au Pertuis, vous allez voir quand il y a les contrôles, les queues de camions qu'il y a quand il y a des contrôles douaniers.
Oui,
donc
mais
il n'y a pas
36 façons de le faire. Mais on a avec Schengen, on a permis aussi l'accélération des trafics.
Oui.
Okay. Je partage 100% ouais. cet avis.
Jean-Luc sur l'échec. Alors vous serez pas d'accord et moi j'ai pas la réponse sur l'échec
c'est des. Le conscience de gauche.
Des pays qui ont légalisé, est-ce que ça se passe mieux qu'en France ?
Je vais pas en rajouter plus que ça. Je pense que la prohibition, je l'ai dit, quels que soient les axes de la prohibition, n'ont jamais marché. Voilà. Après qu'on régule, qu'on fasse attention, qu'on fasse du sanitaire, de la prévention, qu'on s'attaque évidemment au fait que des gamins de 10, 11, 12 ans qui fument du cannabis, non, ça n'est pas bon. Mais qu'on continue à dire que c'est plus dangereux que l'alcool et le tabac est une hérésie. C'est totalement faux.
Non, je ne pense pas que ce soit une hérésie. Je pense pas que ce soit une hérésie quand vous voyez les effets qu'il peut avoir.
Les effets du cannabis ne sont pas plus forts que ceux de l'alcool et du tabac.
Mais passons. Vous voyez ce que les psychiatres disent de ces gamins qui fument jusqu'à 10, 15, 30 joints par jour et qui deviennent
ce qu'ils ont. C'est comme les gamins. Valérie, s'ils prennent une bière, deux bières à l'âge de 12 ans, c'est totalement dangereux.
Non, mais ça, on
c'est
est d'accord. Oui.
Je suis pour l'interdiction aux moins de 18 ans, comme pour le tabac et l'alcool. Oui. Voilà. Moi, je ne changerai pas d'avis par rapport à ça. L'analyse que j'en fais au niveau international, c'est que tous ceux qui ont lutté mondialement, les grands pontes qui ont lutté mondialement contre la drogue ou les drogues, chaque fois qu'ils quittent ces fonctions, disent « on a mis des milliards de dollars pour rien ».
Oui, c'est moins certain, ça. Si on appliquait les lois... Jean-Luc, n'exagère pas. Parce que je peux te dire que moi, j'ai participé à des émissions avec des gens qui prenaient du cannabis et qui faisaient les marioles sur les plateaux en disant « ça me va très bien ». Et puis, hors le plateau, disait « ben oui, mais maintenant, j'arrive plus à avoir d'érection, etc. »
Mais si,
c'est ça la réalité. Il y a un discours officiel que tu défends avec tes verres, là.
Mais c'est tes verres,
on te connaît, Jean-Luc, on t'aime bien pour ça, d'ailleurs.
Mais j'adore les verres, par ailleurs.
Il y a ça, et derrière, il y a une triste réalité. En réalité, il faut lutter contre toute la chaîne. Il faut pas le dépénaliser, il faut sanctionner et il faut lutter contre les trafiquants, je suis bien d'accord. Et c'est une chaîne et on est en incohérence, c'est-à-dire qu'on va excuser le petit dealer, etc., le consommateur, et c'est pour ça qu'on aura toujours des grands trafiquants.
Ouais. Bien sûr. Les mairies aussi ont une part de responsabilité dans la façon dont c'est traité. Il y a des maires qui sont extrêmement sévères, d'autres qui ne le sont pas. À la mairie de Paris, avec le point de la salle de shoot qui se trouve à proximité, il y a des pipes à crack qui sont distribuées. Ce sont ces pipes à crack qui sont utilisées dans les zones de deal dans le 19e. Donc la façon dont la mairie de Paris, dont Mme Hidalgo traite le sujet, ne fait qu'inciter à une consommation illégale supplémentaire.
Et ben vous avez Mounir Majoubi ce matin qui propose qu'on installe aux Invalides d'une salle de shoot. Voilà. Ouais. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Bon anniversaire, Napoléon.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous commentons l'actualité avec Jacques Myard, maire LR de Maison Lafitte, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Alexis Poulain, journaliste et directeur de la publication du Monde Moderne, et Jérôme Rivière, député européen du Rassemblement National. Parlons du pass sanitaire. Le gouvernement a fait adopter mardi un amendement qui permet la mise en place d'un pass sanitaire pour les grands rassemblements, les foires ou les salons professionnels. Je ne sais pas comment ils vont arriver à gérer ce pass sanitaire, entre guillemets, en même temps. Le gouvernement envisage de le rendre exigible à partir d'un seuil de 1000 personnes rassemblées dans un même lieu. C'est une manière de l'imposer un petit peu partout, non ? Ça va être compliqué, Jérôme Rivière.
C'est extrêmement choquant. On a voté la semaine dernière au Parlement européen contre ce certificat Covid. Alors, il faut voir deux choses. Il y a d'une part la possibilité de réguler à travers la demande d'un vaccin, d'une immunité ou d'un test PCR les entrées à nos frontières et à l'entrée et à la sortie du territoire. Ça, nous n'y sommes pas hostiles. Il existe déjà des demandes vaccinales quand vous rentrez dans un certain nombre de pays. On vous demande d'être vacciné contre tel ou tel virus. Donc ça, c'est pas ça qui nous choque. Ce qui nous choque, c'est ce pass vaccinal qui vient s'introduire dans notre vie sociale. Une fois qu'on est à l'intérieur du territoire de la France, il n'est pas admissible qu'on puisse demander de démontrer qu'on a des données de santé pour pouvoir avoir accès, ne serait-ce qu'à un spectacle, à une salle de sport, quoi. Pourquoi pas demain à un restaurant. Aujourd'hui, on nous dit que c'est pour le Covid, demain ce sera pour le HIV, ce sera pour une autre maladie. Il n'est pas question qu'on régule la vie sociale à travers des données sanitaires des Français qui, en plus, ces données, on ne sait pas du tout comment elles seront conservées, comment elles seront utilisées, à qui elles seront accessibles. Donc c'est vraiment une entrave très grave à notre liberté. À l'intérieur de notre territoire, à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne, on doit pouvoir très librement avoir accès à notre vie sociale.
Mais la Grèce a expliqué qu'elle allait demander des tests, des passes sanitaires, qu'il y ait des erreurs
qui soient faites ailleurs qu'en France, c'est une réalité.
Pour pouvoir rentrer dans le pays.
Non, mais pour rentrer, encore une fois, je vous l'ai dit, pour rentrer, ça n'est pas quelque chose qui est nécessairement choquant. On doit pouvoir exiger.
Vos arguments tombent à l'eau. Alors quand vous dites on ne sait pas où ça va aller, c'est la même chose.
Aujourd'hui, il existe des demandes. Vous avez un certificat de vaccination quand vous vous rendez dans un certain nombre de pays d'Afrique, on vous demande d'être vacciné. Donc ça, c'est l'autre...
Ça pourrait être pareil, on pourrait avoir un...
Pas une fois que vous êtes sur le territoire. Une fois qu'on est sur le territoire, on est libre. Excusez-moi, quand on est sur le territoire, on est libre.
Par rapport à l'argument des données... Il ne tient pas l'argument des données.
Parce que c'est fait dans le cadre d'une organisation internationale. Ce n'est pas fait par Dieu sait qui et avec une multiplicité d'organisations.
Montrerez à l'entrée de votre spectacle votre certificat de vaccination.
C'est pas admissible aujourd'hui. Alors, si vous n'avez pas de certificat de vaccination, vous n'allez pas au spectacle.
Mais c'est pas ça le problème.
Alors, Jean-Luc.
Le problème, c'est que si 70% de la population était vaccinée,
Bien sûr, c'est ça le problème.
Aujourd'hui, vous allez dire aux moins de 50 ans, qui vont souvent au spectacle, au restaurant, je ne dis pas que les plus âgés comme moi n'y vont pas, j'attends ça avec impatience, mais si tout le monde était vacciné, 70%, eh bien le pass sanitaire n'existerait pas. Et je rebondis sur ce que dit Jérôme, effectivement, au niveau international, ça n'est pas nouveau. Quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Inde, quand vous allez dans de différents pays, on vous demande des vaccins, parce que c'est normal de demander des vaccins par rapport à ces pays-là. Et on a tardé, comme chacun sait, nous, malheureusement, en France, ça commence à se faire, mais lentement, à faire un contrôle aux frontières, notamment dans les aéroports et dans les ports, de voir qui rentre et qui sort. Mais à ce niveau-là, cette question est idiote. Je viens de le dire, dès que les gens seront vaccinés, si on va le plus vite possible, j'en ai parlé tout à l'heure et je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, eh bien, la question du passeport sanitaire n'existe plus.
Alors Jacques, allez-y, Jacques Mia.
Je voudrais juste dire que je crois que c'est une interrogation transitoire, parce que effectivement maintenant il y a cette possibilité, tout le monde n'est pas vacciné, mais je rejoins Jean-Luc, c'est qu'à partir du moment où on aura une vaccination très importante, la question se posera moins. On ne sait pas si véritablement l'immunité collective fonctionnera, parce que ça, il y a un certain nombre d'épidémiologies. Je ne parle pas de Jupiter épidémiologique, je parle de réel épidémiologique qui en doute. Donc, il est évident qu'il faut que ça soit une vaccination pratiquement le plus optimale possible. Et de toute façon, il y a une question qui se posera, c'est qu'à partir du moment où vous allez voyager, Jérôme, vous allez tomber sur l'exigence d'un carnet de vaccination. C'était le cas, par exemple, pour la fièvre jaune déjà. Donc, le problème, il n'est que transitoire aujourd'hui, et je crois qu'il ne faut pas trop s'offusquer de dire ils vont exiger ça, c'est une atteinte aux libertés. La liberté, ce n'est pas de mettre en péril les autres.
Alors, deux choses. Moi déjà, ce projet de passeport vaccinal était dans les cartons de la Commission depuis 2018, la Commission européenne, donc avant le Covid, sur le fait d'harmoniser les entrées sur le territoire, évidemment, au niveau européen, en disant qu'il faudrait qu'on ait un pass sanitaire au niveau européen. Donc c'est un truc qui remonte. Et là, le Covid permet d'accélérer les choses, hein, sans débat de bioéthique, sans débat, en disant, allez, allons plus vite, finalement, on avait l'objectif de 2022, on va le faire en 2021, on gagne un an, c'est super. Et c'est bien là tout le problème. Ce qu'on voudrait nous vendre comme transitoire n'est pas du tout transitoire. La plupart des lois d'exception, des lois liberticides, des lois scélérates, elles rentrent dans le marbre et elles durent. Aujourd'hui, on a un pays qui fiche les opinions politiques, qui fiche les opinions religieuses, qui va vous demander un passeport bioéthique pour pouvoir aller peut-être dans un événement, concert, festival, que sais-je encore. Et tout ça, ça devrait être normal. Mais bordel, la France, c'est liberté, égalité, fraternité. L'égalité, on l'a plus avec ce passeport vaccinal, puisqu'il y aurait d'un côté les vaccinés.
Fraternité aussi, fraternité, ça veut dire ne pas contaminer les
autres.
Parlez-en de la fraternité.
Mais attendez, vacciner, ça ne veut pas dire que vous ne contaminez pas. Vacciner, vous pouvez contaminer.
Oui, mais...
Non,
mais...
Bah si, si, c'est, oui. C'est quand même une réalité.
On ne sait pas, non, attendez, on ne sait pas.
Non, mais si, si, il y a plusieurs choses. C'est que ce virus, de toute façon, nous, on a fait le choix, enfin, Emmanuel Macron a fait le choix pour nous, de vivre avec, d'accord? En disant, le zéro Covid, ça coûte trop cher, c'est impossible, etc. Donc, on va vivre avec.
Ça
okay, avec
pas,
des vaccins d'un
COVID.
Côté qui protègent des formes graves, mais qui n'empêchent pas de transmettre la maladie, ni de la choper, d'accord?
Mais de ne pas en mourir, de ne pas choper...
Mais donc, ça, c'est le choix individuel.
D'accord, mais donc, bah, le fait d'être vacciné...
Oui, mais vous, si vous, c'est le choix individuel, comment ça, c'est le choix individuel ?
Puisque le vaccin ne vous empêche pas de transmettre la maladie, vous n'êtes pas en infraction à ce que vous appelez, à juste titre, la fraternité.
Voilà.
Si le vaccin vous garantissait
contre,
que vous
ne transmettiez
pas aux autres, vous pourriez exiger des autres de prendre le vaccin.
Or, le vaccin... Est assez
il est réel. Sur la durée d'immunité du vaccin, on ne la connaît pas. Pas plus que si vous avez chopé le Covid, on ne sait pas combien de temps vous êtes immunisé. Le virus, on continue de ne pas savoir grand-chose, d'accord ? Et on est en train de nous imposer des trucs, mais extrêmement dangereux, moralement, éthiquement, pour la construction sociale. On est en train d'empêcher les gens de bouger. Attends, la liberté d'aller et venir, c'est quand même la base.
Oui, propos de Salonard, parce que je pense que les médecins ne sont pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites.
C'est que vous tenez, que tu tiens. Parce qu'il faut regarder les choses qu'elles sont. Est-ce qu'il y a un certain nombre de normes qui s'appliquent à tout le monde ? Est-ce que tu vas contester, par exemple, le port de la ceinture quand tu conduis ?
Non.
Enfin, il faut arrêter. Bien sûr qu'il y a un problème réel, mais il n'en demeure pas moins qu'essayer d'avoir une politique sanitaire qui protège tout le monde, ça n'a rien de liberticide. Faut arrêter.
Mais ce n'est pas une politique sanitaire.
Votre argument de dire...
le Parlement soit consulté, oui, qu'il décide, oui, etc. Mais arrêtez avec ces propos à l'emporte-pièce sur les libertés qui sont mises à mal.
Le Parlement européen n'a pas pu débattre du sujet. La Commission a demandé une procédure accélérée. Elle a été acceptée par la majorité du Parlement européen. On a débattu de rien. Aujourd'hui, nous abandonnons jour après jour l'ensemble des pans entiers de nos libertés publiques, sans qu'il y ait de discussion, sans que ce soit véritablement débattu, ni par des parlementaires, ni au sein de la société. C'est totalement anormal.
Il n'en demeure pas moins que l'objectif est d'avoir une politique sanitaire qui protège le maximum.
Mais votre argument, il est pas bon. Hein, quand vous dites que ça n'empêche pas la transmission, si, il empêche la transmission.
Non, il l'empêche pas. Il la limite.
C'est déjà énorme de la limiter, la transmission.
C'est énorme, mais ça veut pas dire.
Mais qu'est-ce arrêtez de jouer les gauchistes là.
Mais je joue pas. Déjà, au niveau du droit international, ok, on a dit maintenant, si vous êtes vacciné Pfizer, ça va. Si vous êtes vacciné Sputnik V, ça va pas. Ça rentre pas dans les cases. Mais... C'est quoi ça? C'est de la géopolitique, c'est pas une politique sanitaire. Et puis empêcher les gens d'aller venir.
C'est le sujet.
C'est caché derrière une politique sanitaire, il y a une politique de contrôle des populations et de fermeture des frontières. Qui ne se dit pas son nom. Regardez, aux États-Unis, vous avez des États qui sont contre, qui ont légiféré contre le pass sanitaire. Et l'Europe dit, mais les touristes américains vont pouvoir venir quand ils veulent. Mais avec quel pass du coup? Comment on fait? Comment on fait? Niveau du droit international, déjà là, vous avez des problèmes.
Floride, 21 millions d'habitants. La législature de Floride et le gouverneur Ron DeSantis ont passé un texte contre. Et si un commerce ou une église ou n'importe quelle organisation réclame la preuve qu'on a été vacciné, c'est 5 000 $ d'amende. Donc ça veut dire que la France ne veut pas de gens qui viennent de Floride?
Or, elle a dit à tous les ressortissants américains, vous pouvez venir. Alors, comment on fait?
Non, elle a dit à condition d'être aux normes.
d'être aux normes, c'est-à-dire d'avoir un PCR.
Mais on n'est pas des machines. Enfin, cette idée de normer les gens de manière perpétuelle, arrêtez, dans la bioéthique. Non, mais le côté, je veux bien, on met des puces aux chats, aux chiens. Maintenant, on va foutre des passeports sanitaires aux humains. Il y a des caméras partout. À un moment, cette société du bien-être, soi-disant pour le bien-être de tout le monde, c'est un enfer qu'on est en train de créer. Un enfer.
Mais allez dans les hôpitaux voir les gens qui crèvent. Allez voir dans les hôpitaux les gens qui crèvent.
Mais il y en a, mais ça n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui crèvent quotidiennement.
Si vous les limiterez, on n'aura pas 100 000.
Alors, on les limitera, évidemment, avec les traitements précoces, avec peut-être des vaccins qui vont être améliorés.
Mais l'exemple d'Israël, ça dit quoi ?
Valérie, ce que vous proposez, là, c'est la politique de l'émotion. C'est-à-dire, bien sûr que si. Non, mais il y a des morts, mais on ne légifère pas exclusivement sur l'instant, sur ce qui se passe. On légifère sur des sujets fondamentaux. Les sujets fondamentaux, c'est que la France est un pays de liberté. Les libertés publiques doivent être respectées. L'État, il est là avant tout pour les protéger. D'abord, et c'est ce que je rebondirai sur ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, d'abord, se poser même la question aujourd'hui, alors qu'il y a à peine 10% des Français qui sont vaccinés, c'est bien démontré que la réalité, c'est le contrôle la volonté de vacciner.
Ça, c'est autre chose.
Le contrôle est aussi poussé à la vaccination.
Alors, Jean-Luc Benhamias, allez-y.
C'est pour moi le sujet central dont nous discutions. Car après, si on passe à l'international, c'est autre chose. On en discutait, Jérôme l'a dit, tout le monde l'a dit. C'est une autre situation de contrôle par rapport à des virus qui vont, celui-là comme d'autres, qui pourraient revenir. Mais au niveau de notre État hexagonal et de l'hexagone, je m'excuse, tant qu'il n'y aura pas de vaccination globale telle qu'on l'a définie, j'en parle, mais pas que moi, eh bien écoutez, le pass sanitaire ne peut pas exister sinon. Même au niveau du Conseil constitutionnel, je doute que ça puisse passer. Parce qu'il y a une inégalité généralisée entre les différents âges et les différentes populations françaises.
Non, mais ça, on est...
Donc c'est une aberration, c'est une aberration constitutionnelle, et on est en train de dire, super.
Non, mais je crois que la question va se poser de manière simplement temporaire. Et je rejoins totalement Jean-Luc, parce qu'effectivement, si la population est fortement vaccinée, je crois que la question ne se posera plus. Voilà, donc il ne faut pas non plus exagérer. Et je ne suis pas d'accord avec toi, Alexis, quand tu dis « c'est la fin des libertés, etc. » Arrêtez, parce que je crois que là, vous êtes véritablement en dehors de la réalité. Allez. On n'est pas encore dans un pays chinois.
Ah, on n'y est pas, mais alors, visiblement, on importe les meilleures inventions. Et on les exporte aussi, d'ailleurs, sur la répression, les caméras, c'est nous qui en vendons beaucoup.
Je suis sûr que tu dis ça parce que tu t'es fait flasher. Voilà, ça doit être ça.
Ça, comme tout le monde.
Un auditeur me dit, Alexis, vous parlez de fichage, vous avez un iPhone, vous payez sûrement avec votre carte bleue, vous êtes abonné à des tas d'applications, donc vous êtes
fiché. Mais du matin au soir, on est fiché soit par les GAFAM, soit par l'État. Oui.
Donc ça vous gêne moins d'être fiché par ces salauds d'Américains, des impérialistes.
Ça n'a rien à voir entre un fichage commercial pour me vendre des produits pourris que d'être fiché par l'État français. Non mais attendez, c'est quand même c'est autre chose.
Vous trouvez ?
Bah oui.
Vous trouvez, c'est moins grave d'être fiché partout, de savoir ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous achetez ? Vous trouvez
déjà,
ça pas grave ?
Déjà, ils ne le savent pas. Non, je crois pas. Et puis, du moment où je fous l'iPhone à la poubelle, ils vont pas me suivre. Donc derrière, c'est aussi l'État, par contre, c'est les fiches.
Non, parce qu'ils ont vos fiches. Ils ont vos fiches, ils savent exactement qui est Alexis Poulain, ce qu'ils consomment.
Non, ils ne savent pas qui est Alexis Poulain.
Mais bien sûr qu'ils le savent. Cela dit, moi-même, je ne sais pas.
Comment ils savent que tu n'achètes pas que des produits pourris ?
Voilà, absolument. Bon, moi, je me fais pourrir totalement sur les réseaux en disant que je suis achetée par tout, qu'il y a des médecins qui me lobotomisent. Non, le principe de principe de réalité, il est que j'ai des gens autour de moi qui sont morts, des gens qui ont eu un Covid long et des gens jeunes qui n'avaient aucune comorbidité. J'ai eu une jeune femme hier qui m'a raconté que ça avait été épouvantable. Donc voilà, c'est pas seulement la mort, c'est cette maladie qui est et la contagion qui existe qui est là. Donc après, c'est la liberté de chacun. Oui.
J'adore les réactions des Gaulois réfractaires parce que ça montre qu'il y a des réactions. Mais il ne faut pas s'en tenir qu'aux réactions, il faut aussi regarder où on va et pour quelles raisons.
Ouais. Allez, on se retrouve dans un petit instant, petite pause de pub, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Allez, aurons-nous un débat un peu plus apaisé sur Napoléon ? Il faut quand même en dire quelques mots. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron doit effectuer un discours pour le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. C'est donc mercredi 5 mai, aujourd'hui. L'empereur est un personnage très controversé. Est-ce qu'on peut relire l'histoire à l'aune de notre culture aujourd'hui? Emmanuel Macron va devoir parler d'une commémoration sans célébration, encore due en même temps, avec un discours dans lequel il va regarder en face l'héritage laissé par l'empereur. Jacques Myard, je vous laisse la parole.
Bon, écoutez, vous savez, je vais répondre une formule qui a déjà été employée, mais je m'en fous, même si elle a été dite par quelqu'un qui n'est pas ma tasse de thé, tout ce qui est national est nôtre. Ces espèces de critiques à l'égard de Napoléon, c'est ridicule. Il existe, il ne faut pas revisiter l'histoire à l'aune de ce que nous pensons aujourd'hui. Et alors, on a beaucoup parlé de l'histoire de la traite des Noirs et de l'esclavage, mais en réalité, personne ne cite le décret qu'il a pris le 29 mars 1815 qui abolit la traite des Noirs. Tiens, c'est bizarre. Donc, c'est sélectif, ça va dans un sens. Enfin, franchement, c'est ridicule. Et bon, célébrer effectivement le bicentenaire de Napoléon, qui, au regard de ce que nous représentons, est une figure nationale majeure, eh bien, il ne faut pas hésiter. J'ajoute une chose, c'est qu'on l'a traité notamment de troupier à travers l'Europe, mais au passage, qui est-ce qui nous a toujours déclaré la guerre? C'est les Alliés, je rappelle, c'est-à-dire les autres, les Anglais et autres, et qu'il a toujours été, il a pratiquement toujours été en défensive contre les attaques, notamment des Anglais. Alors, il y a eu des fautes, l'Espagne, la Russie, ça c'est exact. Mais il n'en demeure pas moins que moi, je le prends tel qu'il est, et puis je suis bonapartiste, ce n'est pas napoléonien. Donc, je préfère effectivement avoir le général de la Révolution que Napoléon couronné et qui renoue avec les traditions monarchistes. Mais il n'en demeure pas moins, il est là, et puis c'est tout. Mais de là à avoir ces critiques insensées, c'est du révisionnisme soviétique de la part d'un certain nombre de gens, et puis c'est tout. Ouais. Donc, je suis vent debout contre ces idiots.
Alors,
je suis admiratif de l'histoire de France. Ouais. C'est l'une des personnages centrales de notre histoire. Il a conclu la Révolution. Il a posé les bases de l'État moderne. C'est une personnalité qu'il faut prendre. C'est un très grand Français qui est sans doute l'un des Français les plus connus à travers la planète. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des historiens qui peuvent tout à fait faire un travail d'historien, de juger les choses par rapport à un point de vue d'historien. Les politiques qui aujourd'hui se permettent de dire « j'aurais fait ci, j'aurais fait ça », c'est son traitement des femmes, son traitement de l'esclavage, ça n'a rien à voir, c'était il y a 200 ans, ça n'en donc absolument pas, c'est absolument inapproprié de tenter de le juger de cette façon-là. Ça participe à cette déconstruction de l'histoire qui est à la mode aujourd'hui. On ne déconstruit pas l'histoire de France, elle se prend tout entière avec ses moments glorieux, ses moments moins glorieux. Et Napoléon, que ce soit Bonaparte, le général ou l'empereur, c'est un chef d'État majeur. Je rappellerai simplement qu'en Pologne, par exemple, dans l'hymne national polonais, il remercie l'empereur Napoléon de leur avoir fait réaccéder à l'indépendance. Donc, il dépasse la France, il dépasse très largement notre hexagone. C'est idiot de ne pas le célébrer.
Jacques, j'aurais dû vous citer Elisabeth Moreno, la ministre de l'égalité, chargée de l'égalité entre femmes et hommes, qui avait dit que c'était un grand misogyne.
Voilà. Ce qui permet d'exister, vous voyez. Voilà. Alors, c'est ce qui permet à cette femme d'exister. Alors voilà, il fallait bien que Napoléon soit misogyne pour que les féministes se révoltent. Donc, quelque part, il y a de la dialectique, vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais alors, déjà, Emmanuel Macron, en même temps, avec son commémorer, c'est pas célébrer, moi, ça m'a rappelé le sucer, c'est pas tromper, c'est un peu le même truc. Et on peut tout à fait célébrer Napoléon, parce qu'il faut pas avoir l'histoire honteuse. Et Emmanuel Macron, c'est ce président qui disait qu'il n'y a pas de culture française. C'est quand même pas rien de dire ça et d'être président de la République française. Donc, je crois que non, il fait partie et de l'histoire et de la culture, et pas seulement française, européenne, comme vous venez de le rappeler. Les historiens peuvent se régaler puisqu'il a fait le trait d'union entre le 18e et le 19e, entre la Révolution, la Restauration et puis la République, qu'il est un pan important, alors pas à lui seul, mais tout ce qu'il a pu mettre en place, tout ce que ça dit de notre pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de notre pays? C'est ces faux débats sur la misogynie, sur machin, etc. Ce besoin de célébration, c'est qu'on a un vide, on est un pays devenu vide, avec ce besoin de commémorer des grandes figures honteusement en plus, parce qu'il ne faudrait pas le faire correctement, je ne vois pas pourquoi on devrait être honteux par rapport à Napoléon. Il y a suffisamment de critiques dans les livres d'historiens, on apprend suffisamment de choses sur lui et quotidiennement, on peut l'aimer, ne pas l'aimer pour ce qu'il a fait, mais il fait partie de notre culture et de notre histoire, et pas seulement en France, mais aussi en Europe. Donc c'est complètement ridicule d'être honteux par rapport à ça.
Oui, Jean-Luc.
Jean-Luc, allez.
Non, mais je regarde ça avec un œil d'historien. J'ai fait un peu d'histoire dans ma vie. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait de parler des grands hommes ou des grandes femmes de ce pays avec leur côté négatif et leur côté positif. Aucun problème. Parce que si on faisait ça sur Foch, sur Clémenceau, sur Jules Ferry, et je pourrais vous en citer plein d'autres, sur le général de Gaulle, on pourrait trouver évidemment de nombreuses failles par rapport à tout ça. Hier, il y avait une très bonne émission sur France 2 sur la résistance qui était un sujet pour le moins complexe. Voilà, moi je n'ai aucun état d'âme pour être à la fois avoir un regard d'historien par rapport à ce qu'était Napoléon. Évidemment, Napoléon sur la place publique mondiale, il a existé, il existe encore.
Oui. Gengis Khan aussi.
Oui.
Pardon.
Gengis Khan aussi.
Mais il est obligé, Emmanuel Macron, de faire dur en même temps parce qu'il ne veut pas froisser une partie de son électorat qui.
Mais c'est pitoyable de faire en même temps.
Mais
qui est une impasse.
Il est président de la République française. Oui, on a l'impression qu'il a honte de ce pays à chaque fois.
Quand on vous dit qu'il ne va pas célébrer, ça veut bien dire qu'il est gêné aux entournures.
Mais s'il est gêné, il a changé de boulot. Il y a d'autres pays. Il peut être président de l'Allemagne. Il peut faire autre chose.
C'est de la sémantique.
C'est de la sémantique.
Je pense qu'il cède à cette culture woke qui est grand truc à la mode, mais qui, à mon avis, est une toute petite, une infime minorité de gens. Et au nom de leur activisme et de leur importance supposée, il est en train de faire des concessions essentielles qui déconstruisent, encore une fois, notre société, son identité. Et c'est cette débâcle de notre société que dénonçait, je reviens encore une fois, cette tribune qui est sortie il y a une quinzaine de jours, parce que les Français ont tous le sentiment que les choses vont mal. Et ça participe de ce mal-être français.
Oui, donc on va voir les mots qu'il prononcera.
Cette tribune est plus dangereuse que Napoléon.
Pardon ?
Oui, enfin,
le 5 mai, il faut rappeler, c'est une...
Tohu-bohu.
Enfin, Jacques Niard.
Le 5 mai, il faut rappeler, c'est une...
Les salons parisiens qui se... Je dirais bien qu'ils font de l'ananisme personnel, tu vois.
Le 5 mai, c'est aussi une autre date de commémoration, c'est la naissance de Karl Marx aussi. Bon anniversaire, Karl.
Allons-y. Voilà. Allons-y.
Et c'est la journée nationale du lavage des mains aussi. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses en ce 5 mai. Alors, voilà. Merci à tous les quatre.
L'histoire est riche.
L'histoire est très très riche, absolument. Tiens, vous avez vu Jacques Miard, ça va vous plaire, la cancel culture qui s'attaque à Blanche-Neige. Vous savez que les parcs Disney ont ouvert leurs portes aux États-Unis.
Et on s'en fout.
Non,
quoi ? Non, on s'en fout pas.
Mais vous vous rendez compte que Blanche-Neige, quand le prince va l'embrasser pour la réveiller, il ne lui a pas demandé son consentement.
Ah merde, alors
donc en ce moment,
il y a bouche à bouche pour sauver quelqu'un dans la rue.
Et les sept nains alors.
Et les sept nains dans tout ça.
C'est des personnes de petite taille, absolument. Il n'y a pas de diversité. Il va falloir revoir tout ça quand je vous parle. Je dis qu'il y a un gros boulot dans la révision.
Disney n'en a plus que pour quelques années.
Oui, je crois que Disney, ça va être compliqué. Allez, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.
Merci.